Toujours à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Merci de votre écoute. Nous allons maintenant rejoindre à Montréal notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblon. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Alexis.
Alors, une nouvelle chronique aménagement du territoire, architecture, urbanisme se profile. Tu as choisi de parler de situationnisme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout de suite se lancer dans le vif du sujet?
Oui, bien évidemment, quand on parle du mot situationnisme, on pense donc à ce mouvement politique et artistique qui est né à la fin des années 50 autour de la personne de Guy Debord et donc qui était intimement associé à la critique de la société de consommation et oui. Associé à donc aux événements qui ont mené à mai 68.
Oui.
Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que dans la pensée de Guy Debord, un élément qui était très important, et ce, dès ses premiers écrits, c'était la ville.
Ah bon?
Et donc, il y avait une réflexion par rapport à l'urbanisme dans ses écrits.
Consternation, et plusieurs ignoraient cet intérêt de Debord et de son mouvement pour la ville.
Oui, ben voilà, c'est parce que en fait, il disait que l'espace urbain, donc, était justement ces textes critiquaient le caractère commercial et aussi fonctionnel, de plus en plus contrôlé, de plus en plus commercialisé et fonctionnaliste de l'espace urbain, qui faisait que les gens pouvaient plus se l'approprier, pouvaient plus l'expérimenter, le vivre de façon spontanée, et était donc relégué à l'état, si on veut, plutôt que d'être des acteurs, d'être des spectateurs passifs et des consommateurs qui étaient un peu aliénés de leur milieu de vie urbain.
Alors
le rêve, l'expérimentation et ainsi de suite.
Donc dictature du fonctionnalisme. Qu'est-ce que c'est le fonctionnalisme?
Ben donc une de ses cibles tout particulièrement c'était l'architecture corbusienne. Donc Le Corbusier qui était une figure, un personnage extrêmement important pour l'architecture du 20e siècle. Et on ne va pas nier le génie du Corbusier qui était un créateur d'une puissance rare, mais ceci dit, son architecture mettait au centre, disons, ce qui était au centre des préoccupations de son architecture, c'était souvent cet aspect de l'architecture comme machine, donc qui devait être efficace, il y avait une emphase importante sur la circulation aussi, donc sur la présence de l'automobile et l'efficacité des flux de circulation. Donc, une approche très, très, très cartésienne à certains niveaux
qui manquait singulièrement de poésie, finalement, et d'esthétique.
Voilà.
D'accord. Corbu, comme on l'appelle.
C'est ça. Il y a des contradictions parce que d'autres aspects de son architecture, il y avait un énorme élan lyrique et poétique, mais disons que dans son approche de la ville en général, c'était pas le cas.
Et bon, on peut peut-être mentionner, entre parenthèses, qu'il avait peut-être quelques petites tentations fascistes larvées en germe dans sa pensée.
Oui,
il était très aimé de certains, je ne sais pas s'il avait des contacts avec le gouvernement du Duce en Italie, mais je pense qu'il y avait certaines parentés là qui étaient peut-être inquiétantes.
En fait, c'est clair que dans son architecture et surtout l'aspect urbain de son architecture, il y a vraiment des velléités qu'on peut nommer totalitaires, là, dans le sens que c'est des plans où on consulte pas beaucoup les gens et puis on rase tout, disons.
Oui.
Et c'était quelqu'un qui voyait très, très, très grand et qui n'hésitait pas à approcher n'importe qui dans l'espoir que sa vision serait construite. Donc, il n'était pas un paradoxe près. Il avait aussi bien approché le jeune gouvernement de l'URSS naissant dans les années 20, qui, lorsqu'ils n'ont pas voulu construire son palais des Soviets, ben ensuite, dans le courant de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas hésité à s'approcher du régime de Vichy pour,
Oui.
encore une fois, leur faire miroiter ses plans pour la ville de l'avenir.
D'accord. Alors, on ferme la parenthèse et Guy
Voilà.
Debord, lui, se s'opposait, bon, à cette vision du monde.
Oui, parce que évidemment, comme le dit le mot situationnisme, ce qui était, si on veut, l'élément le plus proche, le plus humain, le qui devait être au centre de tout, c'était l'expérience que fait l'humain des lieux, des interactions, des rencontres. Donc, situationniste, c'était la création de situations, c'est-à-dire de moments, de circonstances fortuites qui donnent un sens à la vie. Et donc, la ville devait être comprise et reconstruite d'une façon à encourager donc cette ce vécu de la ville. Et donc ils ont nommé les situationnistes ont nommé, et Debord ont nommé leur disons leur étude de la ville, leur science urbaine, si on veut, la psychogéographie, qui consistait à identifier dans la ville des unités d'ambiance, qu'ils appelaient des unités d'ambiance, c'est-à-dire que la ville, plutôt que d'être comprise en termes d'une série d'entités d'entités administratives, étaient comprises comme étant une série d'unités d'ambiance entre lesquelles on pouvait donc on pouvait parcourir de façon libre pour explorer, pour expérimenter, pour vivre. Et donc l'outil par lequel il se proposait d'étudier la psychogéographie, c'était une pratique qu'il nommait la dérive. Qui consiste tout simplement
Tout un outil.
à parcourir. Ben oui, voilà. Qui consiste tout
Un outil
simplement
appelé
à.
dérive.
Ben oui, voilà. C'est une pratique, en
Oui,
fait.
oui,
Donc,
oui.
ça consiste simplement à partir d'un point A sans savoir quel sera le point d'arrivée, et puis à se laisser parcourir la ville à pied, souvent en état d'ébriété, pour en découvrir les unités d'ambiance, donc toute la juxtaposition d'ambiance, d'atmosphère, de rencontres étranges qu'on peut faire dans
D'accord,
une ville à
d'accord.
échelle humaine.
Bon, alors découvrir ce qui existe déjà préalablement, mais proposait-il des plans, proposait-il des aménagements?
Ben voilà, il semble que les propositions donc simplement pour finir, c'est qu'ensuite quand tu appliques la psychogéographie à l'urbanisme, ben là ça donne ce que les situationnistes appelaient l'urbanisme unitaire, qui était donc leur théorie de l'urbanisme basée sur les unités d'ambiance et la création de villes qui favorisent donc les rencontres fortuites. Et les situations diverses.
Oui,
Donc,
j'entends, oui, j'entends
en
poésie,
fait,
j'entends liberté,
voilà, ben
j'entends
donc ensuite, comment on met ça
contemplation,
en œuvre?
oui.
Et puis, il semble que ça soit leur proposition soit restée, somme toute, en général, fort abstraite.
Oui, et
Il y
lettre
a
morte.
ben, en fait, non, parce que c'est là où on va en venir. Il y a quand
D'accord.
même des applications contemporaines de cette approche-là, et des courants qui s'en sont certainement nourris.
Ah, tout de même.
Mais donc, il y a le sculpteur et architecte Constant, qui est Constant, c'était son nom d'artiste,
Oui.
qui avait construit toute une série de maquettes d'espèces de cartes abstraites d'une ville imaginaire qu'il appelait New Babylon. Et donc, c'est la forme la plus concrète, peut-être, qu'a pris l'urbanisme situationniste. Ceci
Il
dit,
se réclamait du mouvement constant. Il est
oui,
OK,
exactement.
d'accord.
Exactement. Mais donc, ceci dit, je veux dire, que eux n'y aient pas donné forme de façon concrète, je veux dire, l'idée elle-même a certainement survécu et inspire encore aujourd'hui. Donc, cette idée que ce qui importe le plus dans la ville, c'est pas le fait de pouvoir se déplacer de la façon la plus efficace possible, c'est pas la stricte réflexion fonctionnaliste et cartésienne à propos de l'aménagement d'une ville, mais c'est les ambiances qui existent, les relations humaines qui peuvent s'y développer, le potentiel pour ces relations et pour la création d'ambiance.
Voilà.
Et donc cette idée, non seulement ça, mais l'autre idée importante, comme on disait au début, que le citadin n'est pas qu'un spectateur passif, un consommateur passif dans sa ville, mais bien lui-même un créateur, un participant, un acteur. Et ça, évidemment, il y a plein de mouvements de nos jours qui sont directement inspirés par ça. Il y a des aussi bien des bureaux d'architectes que des organismes communautaires un peu partout dans le monde qui essaient justement de promouvoir ça. Il y a toutes sortes d'organismes citoyens, évidemment, qui organisent des événements, des lieux de diffusion artistique, etc., qui sont souvent semi-formels. Donc, qui sont dans la lignée de cette perspective situationniste de l'urbanisme. Donc, c'est une vision qui est encore tout à fait pertinente et qui s'oppose un peu à l'autre vision qui est celle de la planification d'ensemble et ultra-centralisée qui ne tient pas compte de la vie qui existe déjà dans les villes et dans les quartiers.
Est-ce que tu penses que cette vision situationniste de l'aménagement urbain peut s'accommoder des nécessaires mesures qu'on doit prendre en matière de décarbonisation de notre économie, des transports surtout?
Ben, en fait, oui, parce que justement, l'emphase est déplacée. Je veux dire, on vit dans une société où, étrangement, toute notre relation au territoire est basée non pas sur le fait d'être en quelque part et que ce soit satisfaisant et agréable d'être dans un lieu, mais
en
sur
soi.
La notion de déplacement efficace.
Oui.
Tout l'aménagement des transports routiers, l'aménagement des villes et du territoire est basé sur l'aménagement d'autoroutes, sur l'aménagement... On va défigurer des paysages complets dans l'objectif de tracer une route plus droite et plus large, par exemple, que ce qu'il y avait auparavant.
Et je mentionne
la priorité.
Oui.
Oui.
Je mentionne juste en parenthèse que Vancouver, qui est cette ville nord-américaine qui a dit non à l'autoroute comme une plaie ouverte en plein cœur de la ville, exception parmi tant d'autres villes nord-américaines. Alors, on a cette chance ici, en Colombie-Britannique, d'avoir une métropole dans l'ouest qui n'a pas d'autoroute à l'intérieur de son centre-ville. Voilà. Je voulais juste le mentionner. Et sans doute que les situationnistes nous applaudiraient depuis leur panthéon.
Et donc, à partir du moment où on place moins d'importance sur le transport comme étant le principe central de tout aménagement, c'est clair que du point de vue de la réduction de la consommation d'énergie, ça a un impact aussi. Puis évidemment, comme il y a certains corollaires, à partir du moment où ce sont les initiatives citoyennes qui prennent de l'importance et que le citoyen n'est plus que consommateur, mais il devient acteur, lui-même créatif,
oui.
Ben on parle d'une création, d'une réponse aux besoins d'une collectivité qui se fait de façon plus locale aussi.
Alors, si notre curiosité est piquée sur cette vision qu'ont les situationnistes quant à l'aménagement du territoire et l'aménagement des villes, est-ce que on peut poursuivre sur le web et trouver des lectures édifiantes, Jean-Christophe?
Oui, moi j'en ai trouvé des quantités, mais là justement il va falloir, je laisserai donc tes auditeurs faire la recherche simplement en cherchant les termes psychogéographie,
oui.
Urbanisme unitaire, dérive et de bord, et on trouvera toutes sortes de sources là, aussi bien des conférences que des articles de toutes sortes sur le sujet.
Magnifique. Toi, je crois qu'à l'origine, tu avais trouvé des podcasts sur le portail de France Culture, si ma mémoire est bonne.
Oui,
Tu connaissais déjà,
Les chemins
évidemment.
de la philosophie.
Oui.
Il y avait quatre émissions sur Debord.
Et l'une était consacrée justement à l'aménagement.
Ben, on parlait beaucoup, oui.
Ok, magnifique. Un dernier mot en terminant sur cette vision des villes.
Ben oui, en fait, c'est aussi une application plus personnelle des principes donc de la psychogéographie et de la dérive. C'est que c'est aussi une façon, simplement en tant qu'habitant d'une ville, de redécouvrir le lieu où on habite et de sentir qu'on le comprend mieux, de se l'approprier. Et puis ça peut, cette espèce d'approche de simplement explorer sa ville au-delà des sentiers battus, au-delà de nos routines quotidiennes, je crois que c'est une expérience vraiment enrichissante, tout
Oui.
près, plus près de chez soi, qui peut donner plus de relief à son quotidien.
Donc,
Et
oui.
d'ailleurs, en passant, je vais ajouter une dernière chose, c'est
Oui.
que il y a toute la question des applis qui nous aident à naviguer de nos jours et quelle serait la perspective debordienne à ce sujet. Et puis en fait, c'est que si on veut vraiment dériver, mieux vaut éteindre son GPS et son smartphone.
Magnifique conseil judicieux. Gros merci Jean-Christophe pour cette nouvelle chronique Aménagement du territoire et architecture. On va se retrouver bientôt pour de nouveaux sujets y touchant, ressortissants de ce secteur d'études. On va se retrouver bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.
Ça me fait plaisir. À bientôt.